des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Bon lundi, Orange. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Jean-Claude Rivet, ancien conseiller de Robert Bourassa, nous raconte comment la mort du ministre Pierre Laporte lors de la crise d'octobre a toujours hanté son patron. Dans un autre ordre d'idées, celui qui a aussi été sénateur nous relate une anecdote savoureuse autour de l'aide fédérale aux aînés dans cette pandémie. Mais d'abord, c'est lundi, jour où on parle au prof Taillon.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur à l'Université Laval en droit. Donc, l'univers politique américain actuellement est aux abois parce que la célèbre juge progressiste Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême américaine est décédée. Pourquoi le sort d'un seul juge comme ça semble avoir autant de conséquences aux États-Unis?
Ben, aux États-Unis, mais éventuellement chez nous aussi. Le droit, c'est une drôle de discipline. D'un côté, on voudrait voir ça comme une science, une méthode, des règles stables qui procurent une certaine sécurité juridique, le droit comme un savoir, comme quelque chose de prévisible. Et là, quand on a cette conception un peu du droit comme une science, justement, qui serait distincte de la morale ou des convictions, des pures convictions politiques, on peut pas s'imaginer là que finalement la Cour suprême des États-Unis, c'est juste dis-moi pour quel parti tu votes ou quel parti t'as nommé à la Cour suprême et finalement je pourrais déduire les décisions rendues. Alors ça ébranle cette conception du droit comme une science, puis ça nous plonge dans une autre conception qui est plutôt le droit comme la rencontre, l'arène où se rencontrent toutes les idéologies de la société dans un combat qui est le même que le combat politique, mais qui se poursuit à travers d'autres mots, d'autres concepts, d'autres instruments qui sont sous des normes juridiques. Et ces deux visions-là, ben la réalité, c'est probablement que le droit est un mélange des deux. Et parfois, on penche un peu plus d'un bord, des fois un peu plus de l'autre. Et l'exemple des États-Unis, il penche quand même assez clairement du côté d'une cour fortement idéologisée.
Oui, depuis une vingtaine d'années, depuis même une trentaine d'années, on fait remonter souvent à la nomination du juge Bork, qui avait été rejeté par les parlementaires à ce moment-là. Et puis, après ça, les républicains ont comme voulu se venger. J'avais regardé un très bon documentaire à PBS sur ce sujet-là. Là. Comment, finalement, par exemple, le leader de la majorité, Mitch McConnell, s'était dit qu'il allait un jour faire payer les démocrates pour ce qu'il avait fait à Bork.
Donc, ce serait naïf de penser que c'est un phénomène strictement américain. Là que je pense que ça devient plus intéressant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, cette idéologisation, politisation de la Cour suprême, elle saute aux yeux, c'est la visière levée, tout le monde l'assume. Mais elle existe aussi au Canada. C'est juste que c'est plus policé. Ça s'exprime à travers des paramètres, des règles du jeu où les juges vont faire preuve de peut-être plus de réserve. Mais au final, le même dilemme là, du droit comme une science la plus objective possible, la plus neutre possible, et de l'autre côté, un droit qui assume la part d'idéologie, de valeurs, de principes et d'orientations politiques qui sont sous-jacentes aux règles, le même dilemme existe chez nous, puis se manifeste de toutes sortes de petites façons. Là, dans l'actualité des dernières années, on a vu quelques exemples. D'abord, la critique d'aliénation de l'Ouest, elle tient souvent à ça. Hein. Dans l'Ouest du pays, on trouve une forte critique à l'endroit du gouvernement des juges, je le dis en guillemets, parce qu'évidemment, les juges ne gouvernent pas, ils peuvent pas, comme un gouvernement, avoir des initiatives, gérer des budgets. Ce qu'on veut dire par gouvernement des juges, c'est l'idée que les juges ont une marge de manœuvre pour faire prévaloir des valeurs, des choix de société, des orientations politiques. Et avec l'avènement des chartes des droits et libertés, cette marge de manœuvre-là est encore plus grande. Donc ça, on la retrouve beaucoup dans la critique néoconservatrice de l'Ouest du Canada.
Oui.
On la retrouve aussi au Québec.
Ah oui.
Au Québec, sur la question de, on va appeler ça l'axe de la question nationale, si je peux dire. Les fédéralistes fortement autonomistes, les souverainistes québécois ont souvent eu l'impression qu'il y avait à la cour pas assez de ce que j'appellerais d'authentiques fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui défendent une vraie autonomie pour les membres de la fédération. Et donc, il y a souvent un lien de confiance qui est assez ténu, voire brisé, entre une grande partie des Québécois, puis la Cour suprême, puis il y a des affaires célèbres, comme celle où le Québec avait contesté le rapatriement au lendemain 1982, puis s'était fait virer, claquer la porte par la Cour suprême sur ce point-là, les arrêts en matière de droit linguistique, plusieurs décisions comme ça qui ont un peu miné la confiance, puis qui ont donné l'impression à une bonne partie des Québécois que cette cour-là, elle poursuivait une politique qui était celle du pouvoir central. Et de plus en plus, je dirais, le troisième angle de critique, pardon, désolé, le troisième angle de critique qu'on trouve,
oui.
C'est un angle qui vient beaucoup de la gauche contemporaine, axée sur la lutte contre l'exclusion, la protection des minorités. Donc, par toutes sortes de moyens, on veut un pouvoir judiciaire plus représentatif que jamais. Donc, on veut une cour qui soit à l'image de cette diversité. Et donc, il y a une forte critique qui vient de cette nouvelle gauche intersectionnelle, des espèces de libéraux progressistes qui vont trouver que la Cour suprême, elle est trop blanche, elle est pas assez féminine, il n'y a pas assez d'autochtones. Donc, il y a une forte crise de ce côté-là aussi. Et ultimement, la politisation, elle se vit aussi au quotidien à travers le pouvoir de nomination. Le processus américain, il offre un spectacle au moment de la nomination.
Ouais.
Le juge passe au Sénat. Et là, il y a des discours. Il y a des politiciens qui veulent faire la nouvelle avec ça. Fait qu'il y a une théâtralisation.
Dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, c'est justement quand Ted Kennedy, qui était donc le frère des Kennedy là, qui sont succédés au Parti démocrate. Lui, il avait attaqué le juge Bork et il avait dit le juge Bork qui avait été nommé par Reagan est vraiment durement là en public et c'est un spectacle justement.
Cette absence de comparution de nos futurs juges
chez nous, hein.
Des parlementaires qui, aux États-Unis, ont même une certaine capacité de s'affranchir de la ligne de parti, ça explique pourquoi la crise qui mine la Cour suprême et qui est si visible à nos yeux, si son équivalent existe au Canada, cette crise-là reste plus discrète. Parce que notre processus de nomination, nous, il se passe un peu plus derrière des portes closes. Il y a un processus administratif.
Mais il y a quand même eu tout le boucan autour de la nomination du juge Marc Nadon. Par Stephen Harper, qui lui voulait imprimer justement à la Cour suprême une orientation particulière, une orientation justement anti-chartiste, si je puis dire, contre le gouvernement des juges.
Il faut être plus attentif ici au Canada pour voir ces pointes d'idéologie dans le choix des juges, mais elles existent pour vrai. Le plus récent exemple, puis je reviens à Marc Nadon après,
oui.
Toute la controverse entourant la juge, la nomination de la juge Sheila Martin, on l'a vu avec les révélations du Globe and Mail.
Oui.
Probablement que les révélations obtenues de Globe and Mail étaient en marge de l'affaire SNC-Lavalin, puis il y avait une crise entre la ministre de la Justice, la ministre fédérale de la Justice, Judy Wilson-Raybould, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et on avait appris à ce moment-là que le processus administratif recommandait le juge Glenn Joyal du Manitoba et le premier ministre Trudeau s'était opposé à cette nomination qui était soutenue par sa ministre de la Justice. Pourquoi?
Oui.
Parce qu'on jugeait le juge Glenn Joyal trop conservateur, surtout trop favorable à la souveraineté du Parlement, c'est-à-dire à une marge de manœuvre pour les élus dans ces questions de droits et libertés. Et il a nommé la juge Sheila Martin à la place pour des raisons purement idéologiques. Et c'est vrai que sous le mandat Harper, il y avait dans le discours des conservateurs une volonté un peu semblable à celle des républicains aux États-Unis de donner une plus forte présence à un courant conservateur au sein de la Cour. La controverse entourant le juge Marc Nadon, ben, elle est particulière parce que...
Oui, le juge Marc Nadon, effectivement, ça avait été... c'est monté jusqu'à la Cour suprême.
Qui était un des rares à avoir défendu le gouvernement fédéral dans la saga de l'affaire là, Omar Khadr, et qu'il positionnait donc ce juge-là quand même comme un juge pas trop pro-liberté individuelle, plus favorable à aux intérêts de l'État. Et elle avait été contestée, mais sous l'angle de la question Québec-Canada, c'est-à-dire que ce juge était de la Cour fédérale, donc c'est un juge qui venait des institutions centrales, et il y avait dans la Constitution des règles qui exigeaient que l'on nomme des juges qui venaient des institutions québécoises, de cour d'appel ou membres du barreau du Québec.
Oui.
Et ça a été jusqu'en Cour suprême et la nomination a dû être bloquée. Mais plus globalement, il y a eu dans les années Harper des nominations... la juge Brown, la juge Suzanne Côté, juge Moldaver, qui a quand même fait évoluer la Cour suprême, c'est pas pour rien que depuis quelques années, on a plus de dissidence à la Cour suprême, et c'est souvent sous l'angle de la retenue ou de l'activisme que l'on doit faire preuve à l'endroit du Parlement. Donc, cette ligne de fracture, on la voit quand même s'exprimer dans la jurisprudence de la Cour suprême. Cela dit, pourquoi c'est moins vif? Certainement parce que c'est moins théâtralisé, le processus de nomination. Aussi parce que y a peut-être une plus grande sobriété chez nos juges. Ça, l'espèce de dilemme que je décrivais au début entre garder le droit à l'intérieur des paramètres objectifs, puis des contraintes du droit comme une science versus le droit comme un terrain pour toutes les idéologies. Bien, peut-être qu'on est un peu plus attaché à la première conception. L'autre raison aussi, c'est que pour opérer un réalignement de la magistrature, il faut être au pouvoir longtemps.
Oui.
Et on peut regarder dans les 40-50 dernières années, le pouvoir a été exercé essentiellement par les libéraux la vaste majorité du temps. Il y a eu un épisode conservateur sous Brian Mulroney, mais qui était un épisode très centriste. Et ce qui fait qu'au Canada, on a au fond une magistrature qui unanimement soit libéral fédéral ou soit Red Tories à la Mulroney. C'est vraiment seulement avec les nominations des années Harper qu'on a vu apparaître des candidats peut-être un peu plus néo-conservateurs. Et encore, parce que le travail que les républicains cherchent à faire avec le pouvoir judiciaire américain, ça ne se fait pas seulement en nommant des nouveaux juges à Cour suprême. Il faut du temps parce qu'ils doivent aussi nommer des juges dans les cours supérieures des provinces, dans les cours d'appel. Et ça prend quand même plusieurs années. Donc, cette espèce de tension qu'on voit aux États-Unis, ben, elle s'exprime moins aussi parce que les forces politiques sont moins divisées. Mais ultimement, je pense qu'il y a un poison. Il y a un poison qui ronge le milieu juridique au Canada, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que plus on va dire que le droit... et surtout le droit constitutionnel, doit être le lieu où on défend des valeurs, des principes, un lieu où on injecte ces concepts un peu vagues de valeurs, de principes dans le raisonnement des juges. Souvent, on le fait au nom d'un idéal qui est fort valable, le progrès social, peu importe. Mais plus on s'éloigne de la conception du droit comme science rigoureuse et prévisible, et puis, au fond, à force d'étirer l'élastique, ben, l'élastique devient de plus en plus mou. Et ensuite, ça permet à un autre courant qui, lui, a d'autres valeurs, je sais pas moi...
De vouloir s'imposer.
De dire, vous, les progressistes, depuis des années, vous tirez l'élastique en disant le droit, c'est des valeurs, c'est des principes. Ben, très bien, nous, on arrive maintenant en poste et nous, on a nos principes à nous.
Merci.
C'est pour ça qu'une certaine sobriété, une sobriété pour ramener le droit à quelque chose de plus prévisible, plus rigoureux et plus stable, c'est parfois aussi un gage de progrès à plus long terme dans la mesure où ça donne des bases solides à nos systèmes plutôt que de faire du droit un vague élastique avec lequel on fait un peu n'importe quoi.
Évitons l'américanisation donc de notre système de nomination des juges. Mais il est déjà un peu entamé, comme tu l'as bien démontré, Patrick. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.